Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, l'Union européenne sanctionne 9 personnes et une entité tenue pour responsable des groupes armés qui entretiennent les conflits armés et l'insécurité à l'est de la RDC. Cependant, leurs avoirs sont gelés et elles sont interdites de voyager. Élection et installation des membres du bureau définitif du Sénat, c'est pour le samedi 3 août prochain. En tout cas, le dossier des candidatures ne sera retenu que s'il contient la lettre de consentement du parti ou du regroupement politique du candidat. L'invité de ce matin est le directeur de l'Alliance française de Kisangani, Dr Sébastien Etongo, revient sur les raisons de la réouverture de cette institution ce samedi 27 juillet après 2 ans de fermeture. Bonjour à tous. L'Union européenne impose des mesures restrictives à l'encontre de 9 personnes et une entité. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 juillet, l'Union européenne les tient pour responsables d'actes qui constituent des graves violations et abus des droits de l'homme, ainsi que du maintien du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité dans l'est de la RDC. Les personnes désignées sont soumises à une interdiction de voyager et à un gel de leurs avoirs. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne de mettre des fonds à leur disposition. Les détails avec Jacques-Yves Moulima.
L'Union européenne a répertorié 2 dirigeants du M23 ARC. Il s'agit notamment de Benjamin Bonimpa, secrétaire exécutif du mouvement, et le général de brigade Justin Gachéri Moussanga. Dans la liste rendue publique figurent également le commandant adjoint Pierre-Célestin Rourakabijem et le commandant Gustave Kouboyo de FDLR Foka. En fait, d'après ce communiqué, le M23 ARC et le FDLR Foka entretiennent le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ils sont responsables de graves violations des droits humains, de meurtres, de violences sexuelles et d'attaques contre les civils, ainsi que de recrutement d'enfants. Figure également sur la liste le colonel Augustin Migabo des forces de défense rwandaises, RDF. Cette sanction de l'Union européenne concerne aussi Amigo Kiribijé, un commandant des ADF, en raison du niveau extrême de violence contre les civils perpétré par ce groupe armé. Enfin, l'Alliance du fleuve Congo est sanctionnée comme entité ouvertement associée à plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le M23 ARC. Son leader politique, Corneille Nangaa, est lui aussi sanctionné.
Entre-temps, ici à Kinshasa, fin des interrogatoires des prévenus au procès contre Corneille Nangaa et consorts. L'audience publique de ce vendredi était essentiellement technique. Elle était consacrée à la relecture de tous les procès-verbaux, de l'instruction préjuridictionnelle et conclusion des auditions des prévenus. La cour militaire de Kinshasa Gombe a estimé qu'elle est suffisamment éclairée et qu'elle peut amorcer l'étape des réquisitoires du ministère public et des plaidoiries des avocats de lundi prochain. Les colonel Alpha Limbaya, auditeur supérieur militaire, explique la technicité de cette procédure au micro de Jeff Ngoy.
Alors, la procédure veut que les prévenus qui sont en détention ont été tous entendus. Et la procédure veut que pour ceux qui sont en cavale, ce n'est pas la volonté de la Cour ou la volonté du ministère public, mais c'est la volonté du législateur. C'est l'article 327, le dernier alinéa du Code judiciaire militaire qui veut que, le législateur veut que pour les prévenus qui sont poursuivis par défaut, qu'à une des audiences, la Cour, n'est-ce pas, par le biais de son greffe, procède à la lecture des rapports, de toutes les pièces qui sont, il y a les rapports, les procès-verbaux d'audition, les procès-verbaux de constat, les actes d'instruction qui, n'est-ce pas, ont été posés pendant l'instruction préparatoire. Donc, c'est une procédure qu'on ne peut pas escamoter.
Poursuite des auditions des prévenus et témoins au procès de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa, à l'audience publique de ce vendredi devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa Gombe à la prison d'Indolo, 7 prévenus ont été entendus. Ils ont chargé l'Américain Zalman Benjamin comme étant celui qui donnait des ordres et manipulait les drones à la résidence de Vital Kamerhe, un des policiers des gardes de cette résidence ayant survécu à l'attaque du domicile du président de l'Assemblée l'Assemblée nationale a comparu comme renseignant, relatant ainsi les films de cette attaque qu'il a vécu le 19 mai tout en étant menotté. Il devait servir de guide aux présumés assaillants dans la résidence de Caméré avant l'arrivée des renforts militaires. Et puis, le président de la communauté de Babembe dans l'espace Grand Katanga se félicite de la condamnation des auteurs du meurtre du Mwami Charles Simbi du territoire de Fizi dans le sud Kivu. Pour Simba Doudou, la justice militaire devrait sanctionner également tous les autres criminels qui sèment la terreur dans nos différentes entités. On écoute Simba Doudou au micro de Jean Gandou.
Nous acquiescions cette sentence rendue par le juge du tribunal militaire de garnison d'Ouvira. Car c'est vraiment un pas d'avance dans la lutte contre l'impunité dans notre pays. Mais, suivant les allégations des condamnés, lors des procès, nous nous permettons encore de demander aux autorités judiciaires en charge du dossier d'élargir le répertoire de délinquants impliqués dans cette entreprise criminelle. Pour ce qui est d'allocation de dommages et intérêts de victimes, c'est au moins les 250 000 $ alloués pour la famille et les 30 000 pour sa femme Ronica blessée par balle ces jours-là, sont vraiment insuffisants comparés aux dommages qu'a subi la famille. Quand cela ne tienne, nous remercions la justice et demandons au ministère public de s'en charger pour que le gouvernement agisse par action soutenue d'exécution de ces décisions, car notre regretté Mwami a laissé derrière lui 2 veuves et 6 orphelins.
Notons que les Mwami Simbi avaient été tués samedi 22 juin dernier par des inconnus. 3 militaires ont été arrêtés et reconnus coupables. Ils ont été condamnés à la peine de mort par les tribunaux militaires des garnisons d'Ouvira. Au Nord Kivu, une cargaison de vivres estimée à 39 tonnes en provenance d'Europe est destinée aux déplacés de guerre et bloquée depuis 2 semaines par la douane à Goma. Dans une lettre adressée au gouverneur le 23 juillet, dont copie nous est parvenue, les coordinations de la société civile des Masisi et des Rutshuru dénoncent ces blocages de l'aide humanitaire collectée par un consortium de 3 organisations humanitaires en Europe. C'est entre autres Upright Africa, Provide Up in Action et World Emergency Relief. La société civile s'est dit indignée de voir que des personnes déplacées meurent de faim dans les camps alors qu'une importante assistance est retenue par les services de l'État et risque de s'abîmer dans les entrepôts de la DGDA. Jean-Claude Mbabazé explique la situation au micro de Sifa Maguru.
Il y a une cargaison de vivres destinée aux déplacés des guerres qui est bloquée au niveau de la DGDA. En tout cas, la cargaison est estimée à des conteneurs, soit à peu près 39 tonnes de vivres qui ont été collectées par l'ONG Provide Hope in Action sur la sous-station de déplacés via la société civile de Rutshuru et de Masisi. Pour ce mois ici, nous sommes vraiment très sidérés de voir que la DGDA bloque cette nourriture de déplacés alors que la procédure était très très bien respectée par l'organisation qui a collecté cette aide humanitaire aux États-Unis et un peu partout. Les gouverneurs étaient saisis. On veut que ça, tout le monde, toutes les autorités de GDA à Goma, les autorités sont saisies, mais nous nous indignons de voir comment les autorités vraiment ne peuvent pas avoir les soucis de ces populations qui sont en train de souffrir dans des camps en bloquant cette aide humanitaire. Et c'est comme ça que nous avons saisi, en tout cas officiellement, le gouverneur de province. Nous avons copié toutes les autorités au niveau de Kinshasa pour leur demander de libérer cette nourriture sans condition.
Tous nos efforts pour atteindre les responsables de la douane à Goma n'ont pas abouti. Publication ce vendredi du calendrier des élections et installation du bureau définitif du Sénat. Le dépôt des candidatures est prévu pour lundi prochain de 9h à 18h. Le traitement des candidatures aura lieu mardi. Le mercredi, la commission ad hoc examinera les recours avant l'affichage de la liste définitive des candidats. L'audition des discours des campagnes aura lieu vendredi et l'élection et l'installation du bureau définitif sont prévues pour samedi 3 août prochain. D'après le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo, tout dossier de candidature doit contenir la lettre de consentement du parti ou regroupement politique du candidat pour être retenu. Dans la province du Sud Kivu, 60% d'enfants raflés le mois passé par la police dans les rues de Bukavu ont réintégré leur famille. Sur les 300 enfants hébergés au centre de transit et d'orientation du BVS, Bureau des volontariats pour l'éducation et la santé, il n'y reste qu'une centaine. Jean Kassami apporte un éclairage sur la situation de ces enfants.
La mairie de Bukavu avait déclenché le mois dernier une opération de rafle de tous les enfants en situation de la rue. La police a été chargée d'exécuter la tâche. Un bon matin, la police se met au travail et ramasse tous les enfants aux allures de la rue. Ils sont conduits à la mairie qui décide de solliciter l'expertise du BVS, Bureau des volontariats pour l'éducation et la santé. Pourtant, le BVS ne s'occupe que des enfants sortis des forces et groupes armés. Toutefois, le BVS accepte d'accueillir ses enfants dans son centre de transit et d'orientation. Mais après vérification au cas par cas, il s'avère que la plupart de ces enfants n'ont jamais été en rupture familiale. Ici, il s'avère que ces enfants ont été raflés au hasard. Les parents sont passés solliciter leurs enfants. Sur les 300, il en reste aujourd'hui une centaine dont les enquêtes ont révélé qu'ils sont réellement en situation de la rue. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Au Congo central, 36 pêcheurs congolais opérant dans les îlots du fleuve Congo à Kimwabi, dans le territoire de Mwanda, sont encore en captivité depuis la nuit de lundi dans la province d'Osoyo en Angola. Ils avaient été arrêtés au nombre de 129 par des militaires de la marine angolaise en patrouille pendant qu'ils pêchaient avec tous leurs équipements et 93 parmi eux ont été libérés hier jeudi soir, grâce à l'intervention du gouverneur Grace Bilolo. Pour répondre à la problématique des arrestations arbitraires intempestives des pêcheurs œuvrant dans cette partie du Congo central, l'élu de Mwanda, le député provincial Jean Kimboko Ndombasi, plaide auprès des autorités pour que les limites des eaux territoriales soient clairement identifiées et connues par les deux pays. Cela afin de faire régner la paix entre l'Angola et la RDC. Les points avec Nana Plurich Mambo.
Le gouverneur des provinces Grace Nkwanga Bilolo a obtenu la libération des 93 pêcheurs congolais après la réunion qu'il a convoquée avec la délégation du consulat d'Angola à Matadi. Selon l'élu de Mwanda, le député provincial Jean Kimboko Ndombasi, les arrestations arbitraires intempestives et la confiscation des équipements des pêcheurs exerçant dans les îlots de Kimwabi sont souvent déplorées. Il recommande à l'État congolais de bien délimiter les frontières des eaux territoriales pour y mettre un terme. Jean Kimboko Ndombasi.
Les pêcheurs de Kimwabi se disent censés être dans nos eaux territoriales et font la pêche au quotidien. Et de l'autre côté, surgissent à tout moment la marine angolaise en patrouille qui dit le contraire et procède aux arrestations. Et dans tout ça, il y a seulement une solution, que les limites des eaux territoriales soient vraiment et réellement connues. Que chaque partie s'arrête là où commencent les limites des autres.
Du côté gouvernement provincial, il est annoncé que 36 pêcheurs restant en captivité seront relâchés dans les prochaines heures en attendant leur identification. Matadi, Nana Plurich Mambo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les villes de Beni et Butembo, comme de nombreuses autres villes en RDC, ne disposent pas des foyers pour les personnes âgées. Faute de ces établissements d'hébergement collectif, certaines personnes de troisième âge vivent avec les membres de leur famille. Mais de nombreuses autres qui n'ont pas la chance d'avoir une famille d'accueil se tournent vers la mendicité et pour leur survie. Malheureusement, elles doivent souvent faire face à la maltraitance dans la rue. C'est un reportage de Guylaine Kassassia.
Dans la ville de Butembo, par exemple, on voit chaque samedi deux personnes de troisième âge mendier dans la rue, principalement à la devanture des grands magasins. Elles les font avec de fortunes diverses. Si certaines bénéficient de l'intelligence et du respect du passant, d'autres, par contre, reçoivent en guise de réponse humiliation et violence verbale. À Beni, nous avons rencontré Florida Kavuo-Pendeza. Cette octogénaire vit avec sa fille. Dégourdie et souriante, elle est assise sur une chaise longue et n'hésite pas partager avec nous ces conditions fort enviables de prise en charge.
Elle me lave, je ne mets jamais les habits sales. Elle arrange bien mon lit, je prends un repas de mon goût.
Malgré les caprices liés à l'âge de sa mère, Charlotte Kaindo prend correctement soin de sa mère.
Je vis bien avec elle malgré les difficultés liées aux caprices de l'âge. Lorsqu'elle cherche quelque chose, il faut le faire dans l'immédiat. Il faut toujours les supporter au même titre que les enfants.
De son côté, Delphine Mouindo, son petit-fils, estime qu'il faut bien cohabiter avec les personnes âgées pour limiter les conflits familiaux.
Il y a des fois que l'enfant ne comprend. Quand elle parle, il faut que la chose se réalise mauvais ou bon. Si c'est bon, nous faisons. Mais si c'est mal, nous essayons de partager avec elle. Elle comprend, mais avec difficulté.
Béni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Israël perd le soutien de la Grande-Bretagne. Le premier ministre Keir Starmer a annoncé vendredi qu'il levait l'objection de son pays à l'encontre de mandats d'arrêt potentiels contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Son prédécesseur Rishi Sunak avait émis des réserves sans les soumettre à la Cour. C'est en mai dernier que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait déposé des requêtes en vue de la délivrance des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité dans le contexte de la guerre contre les Hamas à Gaza. À la justice de trancher, a rappelé Keir Starmer, qui a souligné l'importance de séparer les pouvoirs et le respect de l'état de droit.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, 2 ans après sa fermeture, l'Alliance française de Kisangani vient de rouvrir ses portes. Ce samedi 27 juillet, une première production culturelle va inaugurer la salle des spectacles. Il s'agira notamment de la représentation théâtrale de la pièce Simon Kimbangu, l'histoire des héros oubliés. Qu'est-ce qui avait contraint l'ambassade de France en RDC à fermer l'Alliance française de Kisangani? Et qu'est-ce qui a favorisé cette réouverture? Pour en parler, nous recevons le docteur Sébastien Itongo, directeur de l'Alliance française de Kisangani. Il s'entretient avec Jacques Mukonkole.
Docteur Sébastien Itongo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pourquoi l'Alliance française avait-elle été fermée?
Merci beaucoup. Je voudrais vous signifier que l'Alliance française de Kisangani avait fermé suite à des difficultés de fonctionnement. C'est entre autres des contraintes budgétaires.
Après 2 ans de fermeture de cette alliance, eh bien, l'ambassade vient de décider la réouverture de ses portes. Comment en est-on arrivé là?
Vous constaterez que la ville de Kisangani ne dispose que d'un seul grand centre culturel qu'est l'Alliance française de Kisangani. Sa fermeture pouvait naturellement pénaliser la population. C'est alors que le conseil d'administration de l'Alliance française de Kisangani, chapeauté par M. Francis Bailongandi et M. Didier Lomoyo, l'actuel vice-gouverneur de la province de la Tchopo, ont mené des plaidoyers auprès des services de coopération et action culturelle de l'ambassade de France pour décider de la réouverture de cette alliance de Kisangani. L'idée est que l'on puisse donner un cadre de réflexion aux artistes, un centre des langues, mais également un espace de création artistique pour le développement de notre ville ou on va dire de la province de la Tchopo. Nous sommes arrivés justement à la réouverture suite au plaidoyer mené par les conseils d'administration ainsi que les membres de la société civile sans oublier la crème intellectuelle.
Après cette réouverture, y a-t-il du nouveau ou des changements par rapport aux services à offrir à la société?
Je voudrais signifier qu'en interne, certainement, il y a des changements parce que actuellement l'alliance est en train de fonctionner avec une société de sous-traitance puisque l'alliance ne pourrait pas recruter actuellement les permanents. Mais en ce qui concerne les activités offertes au public, ça n'a pas changé. Nous sommes restés dans notre mission régalienne, celle de l'enseignement de la langue française ainsi que la promotion de la culture francophone et française dans la région. Mais nous avons repris avec notre programmation culturelle comme d'habitude. Je vous signale en passant que dès ce samedi 27, nous avons déjà une représentation théâtrale d'une pièce de théâtre intitulée Simon Kimbangu, l'histoire des héros oubliés. C'est sur une mise en scène de Tchèque Olinda. Et nous organisons également la colonie des vacances. Nous sommes en train d'encadrer les enfants, les ateliers en rapport avec l'écriture, l'orthographe, la dictée française. Les centres de formation également en informatique est ouverte. Ce sont des formations professionnalisantes que nous organisons au sein de l'Alliance française de Kisangani. Comme vous savez, la maîtrise de l'outil informatique actuellement est devenue incontournable.
La bibliothèque est-elle aussi opérationnelle, notamment la bibliothèque numérique?
La médiathèque est ouverte. C'est-à-dire que notre bibliothèque numérique est ouverte, mais on ne sait pas la faire fonctionner actuellement compte tenu des contraintes liées à l'électricité. Nous sommes en train de mener des plaidoyers pour qu'on puisse trouver un compromis avec la Société nationale de l'électricité pour que nous puissions lancer notre bibliothèque numérique. Mais la bibliothèque traditionnelle des livres en dire existe. Et déjà, à ce moment, la bibliothèque, elle est ouverte.
Sébastien Etongo, nous parlons de l'Alliance française de Kisangani. Ailleurs, à Kinshasa, par exemple, on parle de l'Institut français. Quelle différence y a-t-il entre les deux?
Très belle question. Je voudrais que l'opinion soit fixée que les réseaux français à l'étranger fonctionnent sur les alliances françaises ainsi que les instituts français. Je dois signaler que les alliances françaises à travers le monde, ce sont les associations des droits locaux. Et la fondation, c'est l'institution qui coordonne ou dirige toutes les alliances à travers le monde. Et actuellement, nous sommes à 870 alliances à travers le monde. Et ce sont des associations qui réunissent les personnes qui aiment la culture française et francophone. Et ces associations vivent comme les ASBL, c'est-à-dire des cotisations des membres, mais aussi des subventions octroyées par les ambassades à travers le monde. C'est le cas ici au Congo. Alors que les instituts français, ce sont des institutions françaises à l'étranger avec comme mission principale la promotion des activités culturelles et bien entendu de la langue française. Également. C'est pour signifier que la différence se situe ou du point de vue mode de fonctionnement et les budgets. Les instituts français ont des budgets conséquents qui assurent leur fonctionnement alors que les alliances françaises ont des budgets un peu limités. Les personnes qui aiment la culture de se rapprocher de l'Alliance française de Kisangani. Je vous signale que le hall de l'Alliance française de Kisangani est ouvert à tous les artistes. C'est gratuit.
Docteur Sébastien Etongo, merci.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Debs Vita, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinge et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalou Lambombo à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir suivie.